Journal d'Alexis Morel, bonjour Alexis.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Travailler plus mais payer moins d'impôts. Emmanuel Macron dévoile les grandes lignes de son programme pour un second mandat. Le chef de l'État désormais officiellement candidat à quelques heures de la clôture des parrainages. Nous parcourrons sa lettre aux Français publiée dans la presse régionale. C'est donc une campagne express et imprévisible qui s'annonce face à la guerre en Ukraine, avec une nouvelle étape qui nous saisit d'effroi. Les bombardements ont touché cette nuit une centrale nucléaire. Mais le pire aurait été évité. Nous serons en direct de Kiev, où vous l'entendrez, les médecins aussi se préparent à un assaut russe. Reportage à suivre dans un hôpital en temps de guerre. Ce conflit en Europe qui percute la campagne présidentielle, vous en parlez aussi à 8h20, Jérôme.
Oui, avec le député du Nord et coordinateur de la France Insoumise, Adrien Quatennens, invité du grand entretien. J'attends pour lui vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000. Le standard est ouvert.
Dans ce journal aussi, des passerelles paysannes pour attirer des jeunes vers l'agriculture et la fin d'une longue attente pour les fans de Stromae. Son dernier album est enfin disponible, finalement assez optimiste et coloré.
France Inter.
Une guerre en Ukraine, ses conséquences imprévisibles chez nous, tout cela a donc contraint Emmanuel Macron à réduire sérieusement la voilure. Pas de grand meeting ce week-end, c'est par une simple lettre aux Français publiée hier soir dans la presse régionale que le président se déclare candidat à un second mandat. Il le reconnaît d'ailleurs dans ce long texte, il ne pourra pas mener cette campagne comme il l'aurait souhaité. Bonjour Simon Le Baron.
Bonjour.
Sur le fond, c'est clairement un projet de continuité que propose le chef de l'État.
On ne change pas de capitaine dans la tempête. Voilà ce que nous dit Emmanuel Macron dès la première phrase. Nous avons traversé ensemble nombre d'épreuves. Et un peu plus loin, après avoir défendu son bilan, les crises montrent que c'est bien ce chemin qui doit être poursuivi. Logique, alors qu'il remette sur les rails la réforme des retraites, il nous faudra travailler plus. Et celle de la dépendance, très sensible après le scandale des EHPAD, deux chantiers abandonnés. Idem sur la souveraineté alimentaire et énergétique, la sortie des énergies fossiles. C'est le plan France 2030 qu'il a déjà lancé. Sur la sécurité, la poursuite des embauches de policiers et de gendarmes. Et sur les écoles, la liberté pédagogique déjà expérimentée à Marseille. Sujet inflammable, mais il promet de mieux payer les enseignants. Continuer de préparer l'avenir, nous demande le président candidat.
Emmanuel Macron qui joue à fond la carte du président rassembleur.
L'unité, c'est le fil conducteur de cette lettre. 30 fois, il utilise le « nous ». Même son autocritique est au pluriel. Nous n'avons pas tout réussi. Et s'il se place en adversaire du camp du repli, l'enjeu, écrit-il, est de bâtir la France de nos enfants, pas de ressasser la France de notre enfance. Il défend aussi une histoire, une langue, une culture qu'en tant que Français, on se doit de connaître et d'aimer. Une sorte de « en même temps » de l'identité. Quand Éric Zemmour dit vouloir refaire des Français, Emmanuel Macron veut faire des républicains. Continuité, unité, le président veut décidément lancer sa campagne sur une note rassurante.
Et ses adversaires l'attendent au tournant, le débat démocratique va enfin pouvoir se tenir, réagit Anne Hidalgo. Tandis que du côté des insoumis, on moque le choix de cette lettre aux Français. C'est d'abord à une lettre d'excuse que l'on aurait pu s'attendre, estime le parti de Jean-Luc Mélenchon. Chez les écologistes, c'est dans la dernière ligne droite que renaissent les vieux démons de la division interne. Sandrine Rousseau est exclue de la campagne de Yannick Jadot après un article paru dans Le Parisien. On y lit des propos au vitriol qu'aurait tenu la finaliste de la primaire des Verts. Nos stratèges politiques sont nuls, ils se plantent sur tout, c'est un gâchis. Des propos démentis depuis par Sandrine Rousseau. Dernière ligne droite, je le disais, car c'est ce soir à 18h que s'achève le dépôt des parrainages auprès du Conseil constitutionnel. Pour l'instant, 11 candidats ont obtenu les 500 précieuses signatures. Kathleen Conte, vous êtes en direct du Conseil constitutionnel à Paris. Pour les gros candidats, il n'y a aucun suspense ce matin, mais pour d'autres, tout va se jouer aujourd'hui à la dernière minute.
Oui, c'est le cas pour Philippe Poutou. Le Conseil constitutionnel a fait un nouveau décompte hier soir. Résultat, 439 parrainages pour le candidat du nouveau parti anticapitaliste qui affirme dans une vidéo publiée hier sur son compte Twitter avoir obtenu les 500 signatures nécessaires pour se présenter à la présidentielle.
Nous, on sait d'ores et déjà, avec la remontée des équipes militantes, les chiffres qu'on a de l'ancien compteur, des formulaires qu'on a vus et des promesses qui sont très fiables, on sait qu'on va atteindre les 500. On va être candidat à cette élection-là.
Voilà, hein, Philippe Poutou, très sûr de lui. Pourtant, c'est bien le Conseil constitutionnel qui va trancher. On attend donc la camionnette de la Poste en ce moment, la première de la journée qui doit arriver avant 8h30 ce matin. Elle contiendra peut-être les 61 parrainages manquants aux candidats de gauche. Si jamais ils ne sont pas tous là, une autre livraison doit avoir lieu en début d'après-midi. Les équipes du Conseil attendent encore de nombreuses enveloppes aujourd'hui. Pour rappel, une enveloppe égale un formulaire et donc un parrainage. Charge ensuite à la trentaine d'agents mobilisés au Conseil de tout compter, de tout vérifier et de tout transmettre aux sages. Pour le moment, d'après les derniers chiffres, 11 candidats, vous l'avez dit, sont en lice pour l'Elysée. Parmi eux, Emmanuel Macron, qui a enfin officialisé sa candidature. Ils seront peut-être 12 d'ici ce soir, mais on ne le saura que lundi. La liste définitive des candidats sera proclamée lundi midi par Laurent Fabius, le président du Conseil.
Kathleen Comte, en direct du Conseil constitutionnel avec Christophe Papon. C'est aussi aujourd'hui le dernier jour pour s'inscrire sur les listes électorales. Ce n'est plus possible en ligne, mais vous pouvez encore vous rendre en mairie pour remplir le formulaire jusqu'à ce soir.
C'est un nouveau cap qui est franchi dans la guerre en Ukraine.
Au moins symboliquement, oui. La plus grande centrale nucléaire du pays et d'Europe, visée cette nuit par des tirs russes, selon les autorités ukrainiennes. À ce stade, le danger nucléaire semble écarté, après plusieurs heures d'inquiétude et d'incertitude. Bonjour Omar Waman.
Bonjour Alexis.
Vous êtes en direct de Kiev pour France Inter. Un tir a donc visé l'un des bâtiments de cette centrale de Zaporijjia et un incendie s'y est déclaré en plein milieu de la nuit.
Oui, et le président ukrainien a été très très alarmiste. Il a surdramatisé l'incident dans cette autre guerre que se livrent les deux pays, celle de l'image et de la communication. Volodymyr Zelensky a accusé Moscou de vouloir répéter l'accident nucléaire de Tchernobyl, le plus grave de l'histoire. Il a pris la parole dans une vidéo postée dans la nuit sur les réseaux sociaux. On l'écoute.
L'Europe doit se réveiller maintenant. La plus grande centrale nucléaire d'Europe est en flammes. Les tanks russes ciblent des réacteurs nucléaires. Ce sont des tanks équipés de caméras thermiques. Ils savent donc exactement où ils tirent. Ils s'y étaient préparés.
Et peu après cette déclaration du président Zelensky, le danger était effectivement écarté. Les secours ukrainiens, beaucoup plus rassurants. Selon eux, l'incendie s'est déclaré au niveau d'un immeuble administratif et non pas au niveau des réacteurs. Il y en a 6 dans cette centrale. Aucun équipement essentiel n'est endommagé. L'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, déclare qu'il n'y a pas de niveau de radiation anormaux constaté sur place.
Omar Waman, envoyé spécial de France Inter en Ukraine avec les moyens techniques de Gilles Gallinaro. Et à l'instant, les autorités locales affirment que les forces russes sont toujours présentes sur le site de cette centrale nucléaire de Zaporijjia. C'est Londres qui réagit le plus fermement ce matin. Boris Johnson dénonce les actions irresponsables de Poutine qui menacent la sécurité de toute l'Europe. Le Premier ministre britannique demande une réunion en urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Plus largement, la Russie semble ces dernières heures renforcer sa puissance de feu sur plusieurs villes stratégiques en Ukraine. Au moins 33 morts hier à Tchernigiv dans le nord du pays. Plus à l'est, Kharkiv est aussi régulièrement pilonné. Mais certains habitants ne veulent pas fuir pour autant. Inga Yatsenko est professeure de français à Kharkiv.
Plusieurs quartiers résidentiels ont déjà énormément souffert, ainsi que le centre-ville. Donc je suis un peu en ce moment entre les deux. Mais même entre les deux, il y a aussi des maisons ou des fenêtres ont volé aux éclats, ou des voitures sont brûlées, ou des gens sont morts. C'est l'enfer. Les supermarchés sont encore ouverts. On peut encore acheter quelque chose, mais les gens rôdent entre les rayons vides ou quasiment vides. Il n'y a plus de céréales, par exemple, il n'y a plus de pâtes, très peu de boîtes de conserve. On en a acheté un petit peu, donc on a encore un peu de provisions pour 2 semaines, pour 3 semaines, à la limite. J'ai l'impression que ça va s'intensifier. J'ai l'impression que l'intention des Russes, c'est de nous raser, de raser ma ville de la surface de la terre.
Un témoignage recueilli par Juliette Jay. Seule concession accordée hier soir lors d'une deuxième séance de négociations entre Russes et Ukrainiens, la mise en place de couloirs humanitaires pour évacuer les civils. À Kiev aussi, on se prépare à un assaut russe à tout moment. Les hôpitaux de la capitale sonnent la mobilisation générale. Il faut anticiper un éventuel afflux de blessés, mais aussi gérer les patients déjà dans les murs en train d'être soignés. Vanessa Descoureaux et Marc Garvenès se sont rendus pour Inter dans un hôpital spécialisé en maladies cardiaques. Les soins là-bas se font désormais au sous-sol.
Le hall de l'hôpital est vide, seul le bruit des pas pressé des médecins se fait entendre. Il faut d'abord aller au premier, puis au second sous-sol pour voir les patients. Angela est la plus âgée dans la pièce dédiée aux enfants. Elle a 15 ans. 3 opérations cardiaques. La première, elle était âgée de 3 jours. Il a fallu l'installer dans cette cave pour être au mieux suivie par ses médecins, raconte sa mère, Loda.
On est là depuis le premier jour de la guerre. C'est un endroit sûr et je me sens en sécurité. Avant, ma fille était hospitalisée au 5e étage et là-bas, c'était effrayant parce qu'on entendait les bombardements, les sirènes d'alerte, tous ces bruits si forts. Là-haut, c'était angoissant.
Le docteur Glib Yemets n'a pas quitté l'hôpital depuis le premier jour de guerre, mobilisé depuis 24 heures sur 24. Comme tout le personnel de l'hôpital, il est spécialisé en chirurgie cardiaque, mais se prépare à faire de la médecine de guerre.
Nous attendons, mais nous espérons que cela n'arrive jamais, des soldats blessés au combat. Donc s'il y a une bataille à 10 km à la ronde, on les soignera ici.
D'ordinaire, il y a 5 ou 6 opérations cardiaques par jour dans cet hôpital. Tout a été suspendu, déprogrammé. Le bloc est désormais mobilisé pour les blessés de guerre.
Un reportage Vanessa Descouraux et Marc Garvenès à Kiev pour France Inter. Face à l'aggravation de la situation, le chef de la diplomatie américaine est arrivé cette nuit en Europe. Il a prévu d'y rester jusqu'à mardi. Première étape à Bruxelles aujourd'hui pour Anthony Blinken. Réunion avec ses homologues de l'OTAN et de l'Union européenne. L'UE qui a promis de livrer des armes aux Ukrainiens. Grande première, tournant historique. Mais la promesse se concrétise-t-elle? Où en est-on de ces livraisons ce matin, Claude Guibal?
Ce son, c'est celui d'un Javelin, un lance-missile américain porté à épaule d'homme et devenu symbole de la résistance ukrainienne face aux blindés russes. Les armes, le nerf de la guerre, celles promises par les Européens à hauteur de 500 millions d'euros, sont financées par un fonds spécial hors du budget de l'Union. Mais pas question pour les Européens d'en dévoiler la nature exacte pour ne pas fournir d'indications aux Russes. Tout au plus, sait-on que la plateforme logistique est en Pologne, qu'il s'agit d'armes légères, de matériel de vision, de munitions, de gilets pare-balles, mais pas d'avions de combat. Imprudemment évoqué. Il faut en effet du matériel maniable, soit par des gens déjà formés, mais aussi, comprend-on entre les lignes, par la résistance civile qui se met en place. L'Ukraine dispose aussi des armes livrées par les Américains dans le cadre des accords bilatéraux à hauteur cette année $1 milliard, mais aussi de redoutables drones armés turcs. Il y a enfin, assure les spécialistes, un appui essentiel en matière de renseignement. Mais que pèsera tout cela face au pilonnage de plus en plus massif de l'armée russe qui possède désormais la maîtrise du ciel.
Et face aux sanctions occidentales, Moscou réplique ce matin en restreignant l'accès à plusieurs médias indépendants et étrangers, notamment la BBC et la Deutsche Welle. C'est dans ce contexte international très tendu et très loin d'une trêve que s'ouvrent aujourd'hui les Jeux paralympiques d'hiver à Pékin. Ils vont durer 10 jours, finalement, sans les athlètes russes et biélorusses, après la volte-face hier matin du Comité international paralympique.
Ils étaient 1,5 million il y a 40 ans, ils ne sont plus que 400 000 aujourd'hui.
Le nombre d'agriculteurs ne cesse de baisser en France. Alors comment attirer la nouvelle génération dans les exploitations? On en parle cette semaine au Salon de l'Agriculture à Paris avec un nouveau dispositif proposé par la Confédération Paysanne. Ça s'appelle Passerelle Paysanne. Objectif, Louis Fontaine, faciliter la transmission et l'installation de jeunes agriculteurs.
Devant le stand de la Confédération Paysanne, Lucie, 26 ans, attend avec impatience le début de la présentation. Titulaire d'un master d'aménagement du territoire, elle a toujours rêvé de s'installer dans la Loire dont elle est originaire pour y être éleveuse de chèvres.
Je pense que c'est un peu la plateforme rêvée des porteurs de projets parce que c'est pas si simple d'avoir les compétences techniques pour savoir où s'installer. Et les meilleures terres sont déjà parties. Et cet accès-là, il est pas simple. L'accès au foncier et l'accès au financement. À comment est-ce qu'on rend notre idée, notre projet viable et rentable?
Premier objectif pour Lucie, devenir rentable. Elle est venue ici pour bénéficier des conseils d'agriculteurs confirmés.
On a beau avoir un bac plus 5, on a besoin d'eux. Ils connaissent tout, ça fait des années qu'ils sont sur le territoire et qui ont vécu déjà pas mal de galères, si on peut dire, et qui ont la résilience de toujours continuer.
Aujourd'hui, un tiers des agriculteurs a plus de 60 ans et l'idée de Passerelle Paysanne, c'est d'accompagner ceux qui se lancent dans la durée. Paul Reder, paysan lui-même, est à l'origine de ce projet.
C'est un espèce de compagnonnage par des paysans sur des fermes et ça permet aux porteurs de projets de tester son projet, de vivre au jour le jour sur une ferme. Un projet d'installation paysanne, c'est pas seulement un métier en fait, c'est aussi un mode de vie. Et donc on veut confronter les porteurs de projets à tous les aspects du métier de paysan.
Selon la Confédération Paysanne, il est temps d'agir. 100 000 fermes ont disparu au cours des 10 dernières années.
Louis Fontaine au Salon de l'Agriculture qui ferme ses portes ce dimanche à Paris.
Quelques notes de musique suffisent à l'identifier.
Stromae sort enfin son nouvel album. On connaissait jusqu'à maintenant seulement 2 chansons. Voici donc les 10 autres disponibles depuis cette cette nuit sur toutes les plateformes de musique en ligne. Multitude, c'est le nom de ce nouvel opus, avec cette identité sonore immédiatement reconnaissable, Augustin Arrivé.
Dans l'enfer, il libérait la parole autour des dépressions. Ce nouvel album propose en ouverture une variation optimiste, le titre Invaincu, qui dit sa fierté d'avoir su s'en relever.
T'as pas gagné la guerre, juste une barrette. Petit fantassin, gauche, droite, droite, gauche.
Musique dansante, ici des chœurs bulgares, pour traiter de sujets graves. La formule Stromae est connue, il la resserre magnifiquement. Fils de joie prend la défense des prostituées.
Pardonne leurs bêtises, ô chère mère, ils te déshumanisent.
Alors que le très bourdieusien Riez évoque le désir légitime de réussite d'un enfant des classes populaires.
Non, mon but n'est pas d'être richissime, juste le salaire d'un cadre, et je finirai pas mes jours ici, dans cet appart minable.
Et malgré ses peines, autre ingrédient de son succès, de l'humour, comme toujours.
Y a d'abord une Natacha. Mais avant, il y avait Nathalie.
Désormais marié et père de famille, il signe par exemple la moins romantique des chansons d'amour.
Et bien sûr, il y a eu Eva et Valérie. Mais...
Multitude, c'est donc le nouvel album de Stromae à découvrir ce matin. Et on en a bien besoin.
Oh que oui, merci Alexis Morel. La météo, Stéphanie Fromentin.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Depuis 30 ans, les experts Euromaster sont au service de votre mobilité et de votre sécurité.
Stéphanie, le ciel est légèrement perturbé.
Et oui, car des nuages porteurs de pluie s'infiltrent peu à peu sur les régions de l'ouest, donnant un temps gris et pluvieux qui va s'étendre entre la Normandie, le Poitou, le Limousin jusqu'au sud-ouest. Cet après-midi, la couverture nuageuse reste imposante sur ces régions, mais les pluies vont peu à peu s'estomper, hormis le long des Pyrénées et dans le Tarn, où il continuera de pleuvoir et où la limite pluie-neige descendra de 1100 mètres à 900 mètres. La journée est également nuageuse en Corse, Côte d'Azur, sur les Alpes du Sud, avec des averses qui vont se développer surtout cet après-midi et de la neige qui va tomber en soirée. Certains pourront tout de même bénéficier, sinon de soleil, du moins de coins de ciel bleu. C'est le cas en Bretagne, où les éclaircies timides percent ce matin pour gagner cet après-midi les plages de l'Atlantique. Tandis que sur la façade est, la journée est largement ensoleillée. Un soleil qui va gagner du terrain jusqu'au Hauts-de-France et au bassin parisien cet après-midi.
Et les températures amorcent une légère baisse en journée.
Alors ça se découpe en deux zones. Sous les nuages, il fera 12-15 degrés. Dans l'est et sous le soleil, après les gelées au réveil, le thermomètre grimpera entre 10 et 14 degrés. 10 à Strasbourg et Ouistreham, 12 à Rennes, Poitiers et Biarritz, 14 à Paris, 15 à Grenoble. Il n'y a vraiment qu'entre Perpignan et Marseille où les valeurs afficheront encore 16 à 18 degrés.
Merci Stéphanie, à tout à l'heure.